Bonsoir à tous et merci d'être venu ce soir donc pour la présentation du livre du dernier livre du cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et évêque de Bazas. Beaucoup d'entre vous ici doivent connaître le père Ricard, mais je vais quand même commencer par la traditionnelle biographie histoire de redonner quelques dates et notamment votre date de naissance. Vous êtes né le 25 septembre 1944 à Marseille. Et donc de l'autre côté de la France, mais au sud de la Loire, et vous avez fêté vos 70 ans donc cette année, ordonné prêtre en 1968, évêque en 1993 et créé cardinal par le pape Benoît XVI en 2006. Vous êtes archevêque de Bordeaux et évêque de Bazas depuis le 21 décembre 2001. Vous allez donc, ça fait quelques années que vous êtes bordelais maintenant.
13 ans, oui.
Et que vous accompagnez cette église catholique qui est en Gironde. Vous avez participé comme évêque au JMJ de Madrid en 2011, grand rassemblement des Journées mondiales de la jeunesse, et c'est à cette occasion que vous avez donné un certain nombre de catéchèses. On va évoquer dans un instant justement ces catéchèses qui sont au cœur, à la base de ce livre, et comment, à un moment, est né le projet de cet ouvrage. Il y a dans cet ouvrage des catéchèses de CJMJ et puis d'autres textes de conférences ou de catéchèses également qui sont parus ces deux, trois dernières années dans notamment le journal diocésain de l'Église catholique en Gironde, dans lequel chaque mois vous donnez une catéchèse aux Girondins et à tous les lecteurs sur des thèmes à la fois de l'actualité de l'Église en France ou de l'Église universelle. Comment déjà est né ce projet de livre et quel a été un peu le mode opératoire pour sélectionner ces textes ?
Eh bien d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de ce temps de rencontre avec vous. Comment est né ce livre ? N'est pas né d'une intention personnelle. C'est un jour, Marc Larrivé, qui est l'éditeur de Parole et Silence, qui m'a envoyé un message en me disant « Écoutez, voilà, j'ai lu ce que vous avez dit dans le cadre des catéchèses pour les Journées mondiales de la jeunesse. Ça m'intéresse, je trouve que c'est assez direct. J'aimerais les éditer. » Voilà. Alors, j'ai dit, écoutez, pourquoi pas, je vais les reprendre, c'est autre chose, quelque chose que l'on prononce à l'oral et puis quelque chose que l'on écrit. Puis il m'a dit, après, est-ce que vous n'avez pas d'autres textes ? Donc, j'ai sélectionné aussi un certain nombre d'autres textes, de conférences en particulier, que j'avais faites, qui m'avaient été demandées, je pense une à Bayonne, pour la fête de Saint-Léon. Il y en avait une à La Roche-sur-Yon aussi, à l'Institut supérieur, là, qui a été lancé à La Roche-sur-Yon. Il y en a deux conférences qui ont été faites à Rome aussi. Et j'ai sélectionné ces textes ou ces conférences qui nous parlent de comment vivre la foi aujourd'hui et comment témoigner de la foi. Donc, c'est toute la question de l'enracinement de la foi, d'où le titre « Enraciné dans le Christ ». Et en même temps, l'évangélisation aujourd'hui, donc à la fois personnellement mais ecclésialement, d'où le sous-titre « Le rayonnement de la foi ». Voilà. Donc, ce sont des textes divers, genres littéraires différents, et en même temps, je crois qu'il y a une profonde unité liée à cette réflexion sur, finalement, qu'est-ce que c'est pour un croyant aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, une société marquée par un mouvement lent et profond de sécularisation, c'est-à-dire d'éloignement de toute une partie de la société, pas simplement par rapport à l'Église, mais je crois plus fondamentalement encore par rapport au fait chrétien lui-même. Comment vivre en croyant dans une société qui est pluraliste aujourd'hui ? Toutes les religions ont quitté le bassin qui les avait vues naître. Elles sont devenues mondiales. Bon, c'est vrai pour le christianisme, qu'on trouve dans le monde entier, mais ça a été vrai aussi du judaïsme, c'est vrai de l'islam, c'est vrai de l'hindouisme, c'est vrai aussi des religions japonaises. J'ai été invité à une rencontre interreligieuse, c'était à Chypre, par la communauté San Egidio. Et il y avait là aussi des religieux japonais, Tenriko. Bon, je ne connaissais pas cette religion, j'ai appris à la découvrir. Et ils m'ont dit, mais vous savez que nous existons sur Bordeaux. Ah bon, non, je ne savais pas. Ben écoutez, on pourra vous faire signe. Et donc, j'ai mangé dans un restaurant de Bordeaux avec un certain nombre de personnes, justement, de cette religion. Voilà. Donc, nous sommes dans un monde pluraliste et en même temps dans une société qui est marquée assez fortement par la revendication de l'individu, du besoin de l'individu, du souhait de l'individu. C'est lui qui choisit. On ne lui impose pas quelque chose de tout cuit. Nous sommes dans la société du caddie, c'est-à-dire on va avec son caddie dans le supermarché et on choisit son, ou au moins on a l'impression de choisir librement son produit. En fait, vous êtes des fois manipulé par la publicité, mais vous avez l'impression, voilà. Ce qui est vrai dans l'univers marchand risque d'être vrai aussi dans l'univers religieux. On choisit aussi, j'allais dire, sa conviction, ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, dans telle ou telle famille religieuse ou dans l'Église. On ne prendra pas tout l'ensemble, mais voilà. Donc, nous sommes dans cette société, et donc, comment vivre en croyant dans ce cadre-là? Voilà donc ce qui a motivé, me semble-t-il, à la fois les prises de parole qui sont derrière ce livre et son écriture.
Alors, j'ai filé la métaphore de la consommation. On va prendre une carte fidélité, et puis on va partir sur l'enracinement et ce qui fait l'enracinement dans le Christ, pour un chrétien, pour vous, puisque vous le dites au début de ce livre, c'est à la base, avant de parler d'évangélisation et de mission, il y a l'enracinement, il y a la rencontre avec le Christ qui après appelle à être communiqué et transmise. Qu'est-ce qui fait l'enracinement d'un chrétien dans le Christ?
Alors, je vais d'abord souligner l'importance de l'enracinement et après, je réponds à votre question. Je partirai d'une réflexion qui avait été faite par Marcel Legault. Marcel Legault était à la fois un mathématicien, philosophe, qui ensuite était devenu agriculteur et berger dans la Drôme. Bon, il est mort dans les années 90. Et il disait la chose suivante. Il disait « Autrefois, on tenait debout parce qu'on était serrés les uns contre les autres ». Et aujourd'hui, on tient debout parce qu'on a une colonne vertébrale. Voilà. Et il voulait souligner, si vous voulez, que nous avons changé de société et donc changé aussi de situation par rapport à la foi. C'est-à-dire que nous sommes sortis d'une situation où il y avait une assise sociale forte à la fois de type familial et sociétal. J'allais dire, on était catholique, par exemple, ou on était chrétien de père en fils. J'ai des amis libanais, maronites. Ce qui m'a frappé, c'est que chez eux, la question de ce que vont devenir leurs enfants ne se pose pas. Pour eux, c'est évident que les grands-parents ont été maronites, chrétiens maronites, les parents sont chrétiens maronites, les enfants seront chrétiens maronites et les petits-enfants seront chrétiens maronites. De nos jours, ce n'est plus ça. Nous avons vécu en France, j'allais dire, une remise en question des modes habituels de transmission. Je ne dis pas simplement de la foi, mais des transmissions des valeurs, y compris dans les familles. J'ai un bon ami qui est inspecteur d'académie, assez laïque, qui m'a dit, moi, j'allais dire, ce qui me fend un peu le cœur, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à faire passer mes valeurs à mes enfants. Voilà. Les enfants, ben aujourd'hui, ils sont autrement. Et nous voyons bien que dans les familles catholiques, j'allais dire, l'évolution, je le vois dans ma propre famille, l'évolution des enfants sont différentes. Il y en a qui, de fait, poursuivent le chemin de la foi, s'investissent, s'engagent. Il y en a d'autres qui ont pris des distances. Il y en a d'autres qui ont pris de telles distances que ils ne font pas baptiser leurs enfants. Il n'y a pas de catéchèse prévue. Voilà. Pourtant, ils ont reçu la même éducation familiale. Et les parents ou les grands-parents, après, ben, gèrent ça comme ils le peuvent. Voilà. Donc, nous sommes dans ce contexte-là. Voilà. Donc, la réflexion de Marcel Legault, c'est de dire, aujourd'hui, finalement, nous n'avons plus cette espèce de soutien social. Le soutien social, moi, je l'ai encore connu quand j'étais ordonné prêtre. Jean-Michel disait donc en 68, en 70, j'arrive en paroisse, à Marseille, dans une paroisse populaire, et je vois pour les inscriptions au catéchisme, il y avait encore beaucoup d'enfants. Pas forcément d'enfants de familles croyantes, pratiquantes, engagées. Non, il y avait beaucoup de gens qui envoyaient les enfants au catéchisme en disant, ben, normalement ça se fait, ça se fait, et puis ça lui fera du bien. Comme on disait, il apprendra le bien et le mal. Bon, c'était un peu court pour le catéchisme, mais il apprendra le bien et le mal. Eh bien, ce type de raisonnement aujourd'hui n'est plus tenu. J'allais dire, nous avons assisté à une baisse assez spectaculaire du nombre d'enfants catéchisés, et aujourd'hui, c'est des familles qui veulent vraiment que leurs enfants reçoivent, pas forcément d'ailleurs toujours des familles complètement intégrées à l'Église ou pratiquantes, mais en tout cas, ça demande véritablement un engagement des parents. Parce qu'en plus, il faut jongler aujourd'hui entre de multiples propositions faites aux enfants, en dehors du cadre scolaire, et donc trouver le bon ajustement avec l'heure de catéchisme, ce n'est pas toujours si facile que ça. Voilà. Donc on est là, on est dans ce contexte-là, et ce que nous dit Marcel Legault, c'est de dire finalement, ben, ce qui est important, aujourd'hui, on ne tiendra dans la société qui est la nôtre que si nous sommes profondément enracinés dans le Christ. C'est-à-dire si nous avons fait une rencontre personnelle avec le Christ. C'est-à-dire que si le Christ est quelqu'un que l'on connaît, que l'on apprend chaque jour finalement à mieux connaître, à aimer et qui compte pour nous. Comme je dis à des jeunes, là, j'ai fait une confirmation samedi dernier, je voyais ces jeunes qui étaient là, c'était donc des jeunes de 15-18 ans à peu près, je leur ai dit, si vous ne vivez pas votre foi comme une amitié avec le Seigneur, vous n'êtes pas encore entré dans l'expérience chrétienne. Voilà. Vous n'êtes pas encore entré, vous êtes resté pour l'instant à l'extérieur. S'il n'y a pas ce lien personnel, on peut avoir des hauts, on peut avoir des bas. Il peut y avoir des moments où on est, j'allais dire, plus tiraillé. Mais si on a cette relation personnelle, tôt ou tard, elle marque. S'il n'y a pas ça, je crois qu'on n'est pas rentré, de fait, dans l'expérience chrétienne. Donc, alors, la question qui va se poser, c'est cette relation-là, qui est la foi, comment elle s'entretient ? Parce que je dis, mais la foi, c'est comme l'amitié ou l'amour, hein ? C'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire que ça s'entretient, ça se nourrit, ça s'approfondit, ou au contraire, ça peut s'affaiblir, ça peut s'attiédir, ça peut disparaître aussi. Hein ? Bon, je vois des fois des personnes me disent, moi, je ne sais plus où j'en suis au niveau de la foi. Je suis là dans une espèce de désert total. Ah bon. Alors je dis, ben écoutez, il peut arriver que le désert total soit une épreuve pour la foi. Vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un certain nombre de mois avant sa mort, est passée, j'allais dire, par un désert spirituel terrible. Elle qui avait une approche très affective de Dieu ne sentait strictement plus rien. Et elle disait, mais j'ai l'impression que toutes les objections contre la foi me viennent à l'esprit, là. Et elle a vécu en même temps cette espèce de fidélité sans rien ressentir jusqu'au bout. Et elle est sortie de cet état qui a été véritablement une épreuve, une tentation terrible pour elle, j'allais dire quelques semaines avant sa mort. Voilà. Alors je dis, peut-être que vous vivez ça. C'est peut-être une épreuve spirituelle profonde. Mais peut-être c'est tout à fait autre chose. C'est que votre foi est affaiblie parce qu'elle est anémiée, comme un corps qui est anémié parce qu'il n'est pas suffisamment nourri. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nourrit la foi? Je crois que fondamentalement, c'est la prière. C'est le temps de la prière comme ce dialogue avec Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu, ce temps où on se remet devant lui. C'est l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de l'Écriture, de l'Évangile, où Dieu nous dit quelque chose à travers ces textes anciens qui à certains moments peuvent nous paraître culturellement assez étrangers. Pourtant, c'est le Seigneur qui vient nous faire signe. Je célèbre la messe tous les matins. Donc, il y a les textes de la messe qui sont lus là. Bon. Des fois, évidemment, j'ai un peu sommeil. Hein, c'est quand c'est un peu bonheur le matin et tout ça. Bon. Mais il y a ces textes. Et je suis frappé de voir, si vous voulez, un certain nombre de fois, combien ces textes, tout d'un coup, il y a une parole dans le texte qui fait tilt. Il y a une parole dans ce texte dont je me dis, ça, c'est pour moi. Un moment où vous, je ne sais pas, vous passez par un moment où vous êtes plus fatigué, où vous avez un moment plus de difficultés, les choses ne sont pas faciles, les relations que vous avez eues avec telle ou telle personne, bon, vous marquez le coup, et puis vous voyez que le Seigneur est là. Il y a une image que j'aime beaucoup dans la Bible, parce que je la vis un peu, il y a le prophète Élie. Le prophète Élie, il est parti, il est en proie à la persécution, il est découragé et il s'assoit et il veut se laisser mourir, quoi. Voilà. Et voilà que l'ange vient à lui et lui dit et met à côté de lui une galette et une cruche d'eau. Et il lui dit, mange et bois, car la route sera longue. Voilà. Et le prophète dit, reprend des forces et repart. Ben, vous voyez, dans l'écoute de la parole de Dieu, moi c'est ça. J'ai l'impression que je suis un peu comme Élie, et puis le Seigneur, à certains moments, dans un texte de l'Écriture, me met cette cruche d'eau ou cette galette qui m'aide à repartir. L'Écriture. C'est le pape François qui, souvent, dans les audiences du mercredi, là, sur la place Saint-Pierre, redit à des jeunes, mais à d'autres aussi, pas que les jeunes, disant, vous devriez toujours avoir un nouveau, un évangile, les évangiles sur vous. Voilà. Ou en tout cas, si ce n'est pas sur vous, il ne devrait pas être loin, pour pouvoir justement vous nourrir de cette parole de Dieu. Donc pour moi, la lecture de l'Écriture, la lecture de la Bible me paraît quelque chose d'important, de nourrissant. Il y a ensuite le pain eucharistique, c'est-à-dire l'Eucharistie, ou à la messe, véritablement, le Seigneur se donne à nous en nourriture. Il y a cette parole qui revient très souvent dans l'évangile de Jean, où le Christ dit « Je veux demeurer chez vous. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Ça revient très souvent. Et je pense à cette phrase de l'Apocalypse de Saint Jean où le ressuscité dit « Voici que je suis à la porte et je frappe. Chez celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai et nous mangerons en tête à tête, lui avec moi et moi avec lui. » Voilà. Tout c'est très beau. Christ qui frappe à la porte. Oh, il n'entre pas par effraction. Hein. Si on n'ouvre pas, on ne voit pas. Hein. Il ne se décourage pas, mais voilà. Il attend que nous ouvrions la porte. Et à ce moment-là, il entre et nous mangeons en tête à tête, c'est-à-dire qu'en même temps, sur ce repas, il est celui qui apporte tout, qui dresse la table et qui s'offre d'ailleurs lui-même donc en nourriture vivante. Voilà. Donc je pense que l'Eucharistie me paraît être aussi un lieu de nourriture de la foi. Enfin, je dirais qu'un autre lieu aussi où le Seigneur vient à nous, où il renforce notre foi, où il nous fait signe, c'est la rencontre avec le frère. Vous savez, c'est le texte de Matthieu 25, le jugement dernier, où les justes diront « Mais où t'avons-nous vu, Seigneur ?» Et Jésus de répondre « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais prisonnier, vous m'avez visité. » Voilà. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire la rencontre avec l'autre, la rencontre en particulier de solidarité, la rencontre d'attention fraternelle à l'autre, est aussi un lieu à travers lequel le ressuscité vient à nous, comme dans la prière, comme dans l'écoute de la parole, comme dans l'Eucharistie, et où il vient nourrir notre foi. Voilà. Donc, je pense que s'enraciner dans la foi invite à entrer dans cet itinéraire-là.
Et une fois qu'on a noué cette relation au Christ, qu'on l'a nourri, vous le disiez, par la prière, par la parole, par l'Eucharistie, par la rencontre aux autres, on est invité, comme le prophète Élie, à reprendre la route et à témoigner, à partager cette rencontre. Vous l'évoquez à travers plusieurs chapitres, plusieurs textes, pour les catéchistes ou pour l'annonce de la bonne nouvelle, la dimension de l'évangélisation. Cette évangélisation, justement, comment vous la caractériseriez ? Qu'est-ce qui en fait le moteur, une fois qu'on a cette rencontre du Christ ? Est-ce qu'on est dans une opération de communication bien ficelée, où ça va marcher parce qu'on a les bons ressorts, les bons outils, ou dans un prosélytisme, ou dans une troisième voie ?
Alors, à la fois, si vous voulez, je crois que nous sommes dans une situation paradoxale. C'est-à-dire que l'Église, donc la communauté des croyants, reçoit mission du Christ d'être porteur de son évangile. Pas simplement au sens que Jésus aurait fait un testament, il aurait écrit ses dernières volontés, il nous le donne, il s'en va, on ne sait plus où il est, en disant maintenant à vous de jouer. Il nous dit à vous de jouer, mais en même temps, il est le ressuscité qui reste présent. Et qui se donne aujourd'hui un corps dans le monde pour se faire connaître. Quand Jésus était avec ses apôtres sur les routes de Judée et de Galilée, il avait son corps physique. Et son message passait justement par tout ce qui signifiait à travers son corps. Donc c'était à la fois des paroles qui étaient des paroles fortes, des paroles qui dévoilaient la tendresse du Père, qui dénonçaient le mal, le mensonge ou l'hypocrisie, qui invitaient à l'espérance, qui invitaient à la confiance. C'était des gestes de bénédiction, des gestes de guérison, des gestes de pardon, des gestes de réconciliation, des gestes de partage, en particulier dans le dernier repas. Voilà. Le cœur du Christ est présent à travers tout cela. Je pense à ce texte de saint Matthieu qui nous dit « À la vue des foules, Jésus fut bouleversé au plus profond de lui-même. » Le verbe qui est en grec, c'est les entrailles. Voilà, les entrailles. C'est l'utérus. C'est tout d'un coup comme la femme qui est, frappée au plus profond d'elle-même, tout d'un coup, quand elle voit son enfant en danger. Voilà. Alors, c'est traduit des fois de façon très faible par « il prit pitié, il fut pris de pitié d'eux ». Non, c'est autre chose. Je veux dire, c'est vraiment le coup à l'estomac. Le Marseillais que je suis a une expression, qui est une expression marseillaise, c'est l'estomagade. Avoir une estomagade, c'est justement ce j'allais dire, ce coup à l'estomac. Voilà. Donc, il y a ce cœur du Christ. La question, c'est que ce corps du Seigneur qui va être cloué sur la croix, qui va mourir, j'allais dire, ce corps va réapparaître transformé, hein, modifié aux disciples, mais ensuite, j'allais dire, il n'y a plus de visibilité directe de ce corps. Et c'est ce qui est exprimé d'ailleurs dans le mystère de la foi, l'affirmation de la foi de l'ascension. L'ascension, ce n'est pas simple, c'est pas un petit voyage dans la stratosphère. L'ascension, c'est le Christ qui remonte vers le Père, c'est-à-dire il n'y aura plus de relation physique, immédiate, comme il l'avait avec ses disciples. Alors la question qui peut se poser, c'est le Christ qui remonte vers le Père, qui dit « Vous ne me verrez plus, vous ne me verrez plus ». Est-il celui qui nous a complètement abandonnés, dont on dirait ben, « Il reviendra à la fin des temps, mais pour l'instant, je veux dire, il n'est plus là ». Et c'est là que, dans le mystère de la foi, cet événement de Pâques, de l'ascension, doit être mis en relation avec la Pentecôte. C'est-à-dire que Jésus va revenir d'une autre façon, à travers la communauté de ses disciples à qui il donne son esprit. Voilà. Et finalement, cette communauté des disciples devient son corps par lequel il reste en relation avec le monde. C'est pour ça que saint Paul dira aux Corinthiens, vous êtes le corps du Christ, chacun un membre pour sa part. Voilà. Et je crois que c'est très beau, ça veut dire que aujourd'hui, les paroles des disciples du Christ, les gestes des disciples du Christ, le cœur des disciples du Christ, eh bien c'est à travers ces paroles, à travers ces gestes, à travers ce cœur, que Jésus lui-même se révèle. C'est-à-dire que aujourd'hui, Jésus n'a pas d'autre façon de se faire connaître comme le vivant aux hommes et aux femmes de notre temps, si ce n'est par la communauté de ses disciples. Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas forcément besoin de l'Église. Moi, je vais au supermarché, j'achète une Bible, un Nouveau Testament, et puis là, je suis en contact direct avec Jésus sans avoir forcément besoin de l'Église. Mais le problème quand même, c'est que Jésus lui-même n'a rien écrit. Et il a livré sa parole à sa communauté de ses disciples. Et donc, même si vous achetez le Nouveau Testament, si vous achetez les quatre évangiles, vous tombez sur quoi? Sur l'Église. C'est-à-dire sur la communauté des disciples qui vous transmettent, qui vous transmet, j'allais dire, la foi telle qu'ils l'ont reçue, comprise et approfondie. Voilà. Donc, vous avez, si vous voulez, cette nécessité, j'allais dire, pour la communauté des disciples, aujourd'hui, d'offrir l'Évangile comme une bonne nouvelle. Alors, c'est-à-dire, quelle bonne nouvelle? Souvent, les jeunes me posent la question, si vous voulez, pour ça que vous avez il y a trois chapitres qui reprennent les catéchèses que j'ai faites aux Journées mondiales de la jeunesse. L'intérêt avec des jeunes, c'est qu'ils ne vous loupent pas. D'abord, vous êtes obligé d'aller à l'essentiel, de dire ce qui est vital, et aussi de vous impliquer vous-même. Voilà, donc, voilà, ils attendent ça. Hein? Bon. Donc, la question qui était posée... c'était de dire donc que le Seigneur compte sur nous, j'allais dire, pour que nous soyons porteurs de cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, si j'avais à la caractériser en quelques mots, je crois que ce qui me paraît être le cœur du message de Jésus, il est venu dire à chacun, tu es aimé. Qui que tu sois, quel que soit le jugement que les autres portent sur toi, ou que tu peux porter sur toi-même à certains jours, dis-toi que tu es aimé. Tu es le fils, tu es la fille bien-aimée du Père, laisse-toi aimer. Je crois que la première parole, ce n'est pas d'abord tu aimeras, c'est d'abord tu es aimé. Et d'ailleurs, dans les 10 commandements, dans la tradition des 10 paroles, comme disent les Juifs, ils nous font remarquer que avant même de dire « voilà ce que tu devras faire », ça commence par un rappel « voilà ce que Dieu a fait pour toi en Égypte ». Voilà. Ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu qui a été libérateur pour toi. Alors si toi, tu veux vivre dans cette logique, voilà ce que tu es appelé à faire. Voilà. Ça, ça me paraît très important. Donc c'est d'abord, tu es aimé. Laisse-toi aimer. Laisse cet amour t'habiter. Et tu verras que si tu laisses cet amour t'habiter, cet esprit d'amour, c'est une force de vie, c'est une force de transformation. Ta vie va changer. Pas d'un coup de baguette magique, mais ta vie va changer. Bon. Et donc, ben, petit à petit, tu verras que tu goûteras aussi une certaine paix, une certaine joie, une certaine confiance. Voilà. Donc, et si tu es aimé, tu es appelé à ton tour à entrer dans cette dynamique d'amour. Tu es invité à aimer. Voilà à la fois le message dont l'Église est porteuse et elle a ce commandement du Seigneur qui lui dit « Comme le Père m'a envoyé à mon tour, je vous envoie. » Alors, vous savez, c'est paradoxal parce que nous sommes dans une situation, dans un monde qui n'aime pas le prosélytisme. C'est-à-dire, d'ailleurs, le mot prosélytisme, tout de suite, on voit la secte, l'endoctrinement, celui qui vous serine. Et je me rappelle, moi-même, bon, avoir été, j'étais dans une famille au moment où est arrivé quelqu'un d'une secte. J'ai senti ça comme, j'ai commencé à en parler un petit peu, mais je sentais ça comme profondément humiliant, parce que ce que je pouvais dire n'intéressait pas du tout la personne qui venait m'annoncer sa bonne nouvelle, quoi. Donc elle avait besoin absolument de le dire, ça, de le prouver, alors il y avait des tas de références, bon, etc. Mais ce que je pouvais dire, c'était pas du tout un dialogue, c'était une espèce d'endoctrinement. Donc nous sommes dans un univers qui refuse l'endoctrinement, qui refuse le prosélytisme. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes condamnés, j'allais dire, simplement à s'enfermer chacun dans son jardin intérieur de ses convictions? Voilà. Parce que si c'est ça, à la fois c'est respectueux, mais en même temps, j'allais dire, c'est suicidaire pour la foi. Bon. Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant chez le pape François, dans son exhortation, La joie de l'Évangile. Vous verrez que dans ce livre, il y a un chapitre, justement, où je présente ce qu'a été l'exhortation du pape François. On peut dire c'est l'exhortation « La joie de l'Évangile » parue il y a un an, il y a juste un an. C'est vraiment le texte fondateur de son pontificat, où il donne ses grandes convictions. Vous retrouverez résumé là, dans ce texte, un peu les grandes convictions du pape François, qui reprend très souvent dans un certain nombre d'homélies ou de conférences, là. Lui-même, à un moment dans cette exhortation, nous dit « L'évangélisation ne se fait pas par le prosélytisme, mais se fait par l'attraction. Voilà. » On pourrait dire par une contagion, à condition que cette contagion soit une contagion volontaire qui respecte la liberté de l'homme. C'est-à-dire, on peut dire que c'est de l'ordre de la contagion, comme on dit que la joie est contagieuse. Voilà. C'est une expérience forte que vous offrez, mais qui respecte la liberté de l'autre, et l'autre voit si ça correspond ou pas à sa recherche, à son questionnement, à ce qu'il est. Voilà. Il y a une image qui revient souvent dans l'Évangile. On va la retrouver dans une belle rencontre de Jésus avec la Samaritaine, qui est l'image de l'eau vive, la source d'eau vive. Bien, je crois que ce qui est au cœur de l'évangélisation, c'est de dire, écoute, j'ai trouvé une source d'eau vive. Moi, elle me désaltère. Si tu as soif, toi aussi, ben tu viens et vois, viens et bois. Voilà. Cette source, je l'ai découverte, elle ne m'appartient pas, elle est pour tous. Si tu le veux, elle peut être à toi aussi. Voilà. Je crois que, me semble-t-il, l'évangélisation est de l'ordre de ce partage de quelque chose qui est vital, de l'ordre d'une passion. Je suis frappé de voir, si vous voulez, que vous avez des gens qui sont passionnés. Passionnés de musique, qui sont passionnés de sport, qui sont passionnés de politique, à condition que ce ne soit pas casse-pied pour les autres, je veux dire. Cette passion est communicative. Ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est des familles de musiciens. J'ai quand même frappé de voir, il y a une espèce de passion dans la famille. Ils n'ont pas décidé qu'ils allaient, mais dans l'air qu'on respire, ça passe. Et donc, les enfants aussi, là, sont musiciens et tout ça. Bon, il y a quelque chose qui est passé par là, quelque chose qui est de l'ordre de la vie. Et il me semble que la communication de la foi aujourd'hui, elle est un peu de ce type. Voilà.
Vous nous donniez tout à l'heure quelques pistes sur comment entretenir la relation au Christ. Quelles sont les pistes, les lieux ou les formes que pourraient prendre ces témoignages pour l'Église catholique en Gironde notamment ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Si vous voulez, la première, je crois qu'il y a d'abord une disposition d'accueil à l'intérieur des groupes chrétiens, à l'intérieur de la communauté chrétienne. Je crois que nous avons à accueillir ceux qui viennent, en les prenant là où ils sont, voilà, et en les accueillant comme une chance de Dieu qui nous est donnée. Voilà. Donc, non pas, et ça le pape François revient très souvent, disant, l'Église, ce n'est pas un péage, c'est-à-dire on ne fait pas passer un examen de passage aux gens. On les accueille comme le Christ accueillait. Je n'ai pas passé les examens de passage. Voilà. Donc, comment voir toutes nos rencontres pastorales, paroissiales, à travers la préparation de sacrements, par exemple, la catéchèse, comme un lieu de proposition de la foi, un lieu de partage de la foi. Bon. Donc, les repenser dans une dynamique missionnaire. Plutôt que de dire, mais qu'est-ce que j'ai ? Il y a un couple qui vient. Lui, il n'est pas baptisé. Elle a été baptisée, elle n'a pas été catéchisée, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Bon, il y en a vraiment qui ne savent rien. Je me rappelle, on avait fait un samedi de formation pour tous ceux qui demandaient le baptême et le mariage. C'était, il y avait un peu un temps fort de formation. Et alors, il y avait un petit test au début pour savoir ce que les gens savaient, connaissaient un peu. Alors moi, j'étais à côté d'un couple, là, et alors il y avait une question, il y avait « Qui est la mère de Jésus ?» Et j'entends la fille qui est à côté de moi qui dit « Je sèche, je sèche. » Bon. Donc, je dis « Voilà, elle était… » Bon. Donc, au lieu de dire « Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Ils se sont trompés de porte, je veux dire, vraiment, il n'y a pas de raison, qu'est-ce qu'ils viennent chercher purement une cérémonie ?» Je dis « Écoutez, ils sont là, est-ce qu'on peut faire un chemin avec eux ?» Voilà, on peut faire un chemin avec eux. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que nous dit le pape François. Il dit, mais attention, aujourd'hui, l'Église est trop centrée sur elle-même. Voilà. Il dit, si l'Église est trop centrée sur elle-même, elle ressemble à la femme recourbée de l'Évangile. La première fois qu'il a dit ça, c'était dans l'assemblée de préparation au conclave. On était là, on a écouté le cardinal Bergoglio qui parlait. Bon. Alors Jean dit, oh, c'est intéressant ce qu'il a dit. Bon. Après, on a dit, oh, à partir de cette intervention, tout le monde a dit, c'est lui qui doit être pape. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais on a trouvé que c'était intéressant. Alors en même temps, on dit, attention, la femme recourbée de l'Évangile, vous, évidemment, ça vous dit tout de suite quelque chose. Mais moi, sur le moment, ça n'évoquait pas immédiatement un texte. Puis j'ai regardé, oui, alors c'est Luc, chapitre 13. C'est une femme qui a une espèce de démon qui fait qu'elle est recourbée et elle ne peut plus se tenir droite. Et alors évidemment, quand vous êtes recourbé, ce que vous regardez, c'est votre nombril. Il n'y a que votre nombril que vous regardez. Voilà. Et Jésus va la guérir et elle va se relever et elle va enfin pouvoir entrer en relation renouvelée avec ceux qui sont là. Elle va pouvoir en même temps servir les gens de la maison, etc. Et le pape disait, quand l'Église s'occupe trop de son organisation, de son animation, uniquement de sa gestion interne, elle est cette femme recourbée. Et tôt ou tard, si elle ne fait que ça, elle devient malade. Espèce de maladie que ça secrète, ça. Bon. Par contre, elle doit sortir. Voilà. Et ça, c'est... le pape, il revient très souvent, elle doit sortir. Vous devez aller à la rencontre d'eux. Vous devez faire signe. Voilà. Alors, ce que je vois sur Bordeaux, il y a des initiatives diverses qui sont prises. Il y a par exemple des visites à domicile pour inviter un certain nombre de personnes, pour reprendre contact avec elles. Alors, il y a des gens qui disent non, merci, moi ça. D'autres disent écoutez, moi, on profite pour parler. Je pense qui m'a paru assez révélateur, une personne, on sonne à sa porte. Elle ouvre, dit, ben voilà, ils viennent de la paroisse, etc. Personne dit, je vous attendais. Alors, c'est un peu étonnant, je vous attendais. Vous pouvez se dire, ben, si vous aviez quelque chose, si vous attendiez quelque chose d'eux, vous pouviez aller à la paroisse. Qu'est-ce que... Non, il y a des gens, il faut qu'on les rejoigne chez eux. Ils ont besoin d'être rejoints, eux. Voilà, qu'on fasse la démarche vers eux. Je trouve que le chemin est trop long sans ça, ou trop loin. Trop éloigné. Bon. Il y a des gens qui ont des contentieux avec l'Église, il y a des choses qui ont été vécues, qui ont besoin de parler, etc. Voilà. Donc, on a été témoin d'un certain nombre de belles choses, là, où je pense qu'il y a des repas partage qui se fait aujourd'hui. C'est une fois dans le mois, on invite, là, en tenant compte en particulier des personnes, alors il y a des gens de la communauté paroissiale, mais il y a aussi des gens qui sont seuls, des gens qui sont loin. Il y a aussi les gens qui sont à la rue. C'est très rare quand même qu'on mange avec des gens qui sont à la rue. Bon. Et d'un mois sur l'autre, c'est créé une espèce de relation communautaire. Voilà. Et ces personnes ont témoigné. Là, c'est l'année dernière, je me rappelle. Et la question qui leur a été posée, c'est « Mais qu'est-ce que vous avez découvert ?» Et ils ont dit, c'est le même mot d'ailleurs que les catéchumènes qui demandent le baptême, on a découvert une famille. Voilà, parce que, j'allais dire, c'est pas pour rien que l'année dernière, la solitude a été déclarée comme grande cause nationale. Donc beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont seuls, ou que des fois il y a une espèce de, j'allais dire, les problèmes arrivent des fois les uns après les autres, il y a une espèce de spirale dont on a l'impression qu'on ne va pas sortir, et ils ont besoin à ce moment-là d'un type de présence. Voilà. Ben, pour moi, je pense que des formes d'évangélisation sont de ce type.
Il nous reste 10 minutes, on va évoquer justement la famille dans un instant, puisque vous l'abordez à la fin de l'ouvrage et elle est au cœur de l'actualité de la vie de l'Église avec les propositions du pape François sur le synode des évêques, donc on pourra en parler. Mais avant, je voulais revenir avec vous sur les deux figures qui marquent aussi cet ouvrage. Le pape Benoît XVI, puisque vous avez commencé ses catéchèses au JMJ de Madrid, où il était présent, et le pape François, sous lequel se poursuit aujourd'hui cet ouvrage. Vous aviez eu un texte, il n'est pas présent là, mais que vous aviez publié au moment du conclave, sur le rôle du pape, puisque c'était aussi des questions évoquées à ce moment-là. Et vous disiez, l'évêque de Rome n'est pas le curé du monde, mais l'évêque de Rome est là pour affermir ses frères évêques dans la foi. En quoi, justement, ces deux évêques de Rome vous ont aussi affermi dans la foi et aident l'Église à rayonner?
Alors, je vais rajouter aussi Jean-Paul II, parce que c'est lui qui m'a nommé évêque.
C'est vrai, c'est vrai.
Évêque auxiliaire à Grenoble, puis à Montpellier, et puis après à Bordeaux. Voilà, donc j'ai un souvenir assez ému de Jean-Paul II. Je l'avais vu, évidemment, j'avais accompagné mon évêque à Rome, c'était dans les années donc 91-92, là, c'était un pape qui n'était pas encore touché par la maladie, donc il était en grande forme. Et puis après, comme président de la conférence, j'étais dans la petite voiture à Lourdes, où il venait au milieu de la foule, là, et je voyais à quel point il a quand même la maladie, hein, l'avait marqué. Voilà, donc j'ai aussi beaucoup de reconnaissance, voilà, par rapport à Jean-Paul II. Benoît XVI, j'ai eu une relation personnelle avec Benoît XVI, dans la mesure où, c'était en 2002, il m'a nommé, enfin où j'ai été nommé, membre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dont il était le préfet. Et cette congrégation a une rencontre tous les mois. Donc, la semaine dernière, j'ai eu une rencontre comme ça, de cette congrégation à Rome, et il était le préfet. Donc, pendant 3 ans, tous les mois, je l'ai vu avec la grande intelligence qui était la sienne, un théologien beaucoup plus subtil et respectueux que l'image des fois qu'on en donnait. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé sa réflexion, la puissance de sa réflexion. Et puis après, il y a eu le pape François. Donc, le pape François, donc là, j'ai participé à son élection. Bon, je dois avouer que c'est un grand moment quand même. Grand moment. D'autant plus que, vous savez qu'il n'était pas forcément dans les favoris. Bon, il y a les journaux disaient, on avait 7 ou 8 candidats de belles figures, hein, qui pouvaient être aussi pape. Bon, donc je suis venu à la préparation au conclave là pour en me disant bon, on va voir un peu, puis avec les, on écoutait l'un, on écoutait l'autre, etc. Bon, puis alors un tel, ben oui, mais il y a ce problème, un tel, il y a ci, un tel, il y a là. J'entendais un peu les uns, les Italiens, ils ne voulaient pas d'Italiens, etc. Au bout d'un moment, j'ai dit à un cardinal italien, d'ailleurs, qui m'avait parlé, j'ai dit, mais écoutez, vous me dites surtout pour qui ne pas voter, mais vous verriez quelqu'un? Alors, il me dit, mais oui, moi, je vois une belle personnalité, c'est le cardinal Bergoglio, de Buenos Aires, je l'ai connu, moi, je crois qu'il serait bien, il serait bien. Bon. Le cardinal Bergoglio, mais il est quand même âgé, il va avoir 77 ans, donc c'était l'année dernière. Bon, donc, est-ce que c'est pas trop âgé? Non, vous savez, regardez Jean XXIII, hein, il est resté pape finalement 5 ans, hein, mais il avait 78 ans, mais regardez ce qu'il a fait. Bon, je dis oui. Alors il me dit, vous savez, on n'a pas tellement intérêt à élire un cardinal de 50 ans, hein, vous allez le garder 30 ans, hein. Or, le monde change en 30 ans. Hein. Des fois, il faut changer les hommes. Ah bon? Alors, je dis, oui, c'est vrai, je n'avais pas perçu ça sous cet angle. Bon, bien. Mais on est rentré quand même donc, au conclave sans trop savoir. Et même le premier vote n'a pas été forcément très indicatif. Bon. Et c'est le lendemain qu'à ce moment-là, les voix pour le cardinal Bergoglio sont venues. Et puis, petit à petit, ça s'est amplifié jusqu'à ce qu'il atteigne plus des 2/3 des voix. Voilà. Donc, on a eu à ce moment-là l'impression que, bon, ce n'était pas forcément un candidat qui était déjà programmé, mais que l'Esprit-Saint, finalement, nous avait guidés. Voilà. Hein? Moi, ce qui me frappe, il y a eu le changement de style, hein? Puis, il a aussi cette impression de ne pas avoir 20 ans devant lui. Donc, il veut aller assez rapidement. Il y a une parole un peu qui bouscule aussi, parce qu'il sait que le temps lui est compté aussi. Bon. Et en même temps, je trouve que nous retrouvons la grande intuition de ce qui a été le Concile Vatican II. Et ce n'est pas pour rien qu'il a souhaité canoniser Jean-Paul II, on s'y attendait tous, mais qu'il a accéléré aussi la canonisation de Jean XXIII. Voilà. Parce qu'habituellement, il faut toujours un miracle supplémentaire pour passer de la béatification à la canonisation. Il n'y avait pas eu de miracle supplémentaire, mais le pape a l'autorisation de pouvoir présenter à la canonisation ce qu'il a fait. Et je trouve qu'il y a un lien profond entre, finalement, Jean XXIII et le pape François. Quand on lit le discours d'ouverture de Jean XXIII au Concile Vatican II, c'est véritablement ce souhait, j'allais dire, d'une Église qui retrouve un dialogue avec le monde. Hein ? Non pas, j'allais dire, pour s'ajuster simplement au monde ou s'adapter au monde sans plus, parce que si elle est un pur reflet du monde, je ne vois pas l'intérêt qu'elle peut avoir à ce moment-là. Mais elle doit de nouveau entendre ce dont le monde est porteur et s'adresser justement à ses contemporains. Et donc, faire un renouveau de l'intelligence de sa foi, de son message, de sa vie, de sa proposition, j'allais dire, pour vivre cette rencontre. Et il me semble que le pape François, quand on nous dit « mais il faut sortir », hein, il ne faut pas rester comme ça, il ne faut pas toujours redire les mêmes choses, il faut entrer en dialogue avec. Voilà. Et en particulier, il me semble qu'il y a, une dimension qu'on trouve chez Jean XXIII et chez le pape François, c'est l'amour de Dieu et la miséricorde. Voilà. Jean XXIII disait « ne soyons pas des prophètes de malheur ». Hein, mais soyons des prophètes de la tendresse de Dieu. Et c'est ce que le pape François dit, nous avons aussi à être les témoins de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, c'est ça qui est quand même fondamental. Je trouve que là, il y a une relation entre les deux papes, peut-être une filiation du pape François par rapport à Jean XXIII qui me paraît intéressante.
La famille, on le disait, vous l'évoquiez à la fin comme un lieu aussi d'enracinement dans le Christ, bien sûr, mais aussi de rayonnement de la foi. Et vous le disiez au début de cette présentation, les difficultés qu'il peut y avoir à transmettre les choses. En quoi aujourd'hui la famille est appelée à être ce lieu de rayonnement de la foi, à la fois dans la famille, dans l'Église et puis dans le monde ?
Je crois que la famille est ce lieu fondateur de notre humanité, même si la construction de notre humanité, je veux dire, aussi bénéficie d'autres apports. Moi, je vois tout ce que j'ai reçu de ma famille, mais ce que j'ai reçu aussi du mouvement scout auquel j'ai participé, d'un réseau d'amis, il y a tout ça qui nous font ce que nous sommes aujourd'hui. Mais en même temps, dans cet apport à la construction de la personnalité, l'apport familial est fondamental. Bon. Et donc... en particulier cette qualité de l'amour hein, qui construit les êtres. Des fois, ça nous paraît naturel. Le jour où on en manque, le jour où je vois par exemple des jeunes qui ont l'impression, à tort ou à raison, hein, qu'ils n'ont pas été aimés ou qu'ils n'ont pas eu leur content d'amour, ben, il y a quand même une blessure qui est là, bon, avec laquelle il faut qu'ils apprennent à vivre, peut-être qu'ils en guériront, mais enfin, il y a ça qui joue. Donc, je crois qu'il y a, pour l'édification de la personne, quelque chose d'important. C'est un lieu aussi, disons, de communication de la foi, et donc d'accès à l'Évangile, à la vie avec le Christ. Je crois qu'il y a une responsabilité des parents. Mais ce qui me frappe de nos jours, c'est que, de plus en plus, les choses vont dans les deux sens. Avant, on voyait surtout la transmission parents-enfants. Et maintenant, je vois dans beaucoup de familles, il y a la transmission enfant-parent. C'est-à-dire que les enfants, un certain nombre, par exemple, viennent au catéchisme, un groupe d'aumônerie, parce qu'ils sont venus par leurs camarades, ils voulaient, bon. Et puis, finalement, ils vont entraîner leurs parents. Et il y a des choses qui se passent, et voilà que tout d'un coup... à cette occasion-là, cet homme, cette femme, qui est le père, qui est la mère de cet enfant ou de ce jeune, est touché et entame, pour sa part personnelle, une recherche, une vie de foi. Je suis frappé aujourd'hui, je fais par exemple, chaque année, autour de 180, l'année dernière, j'ai fait 186 confirmation d'adultes. Donc c'est des adultes qui n'ont pas été confirmés quand ils étaient jeunes, mais qui le sont, donc ça peut aller entre 20 ans et 80 ans. Voilà. Une fois, j'ai confirmé de quelqu'un de 84 ans. Bon, je lui ai écouté, au mieux tard que jamais, hein. Voilà, bon. Et ce qui me frappe parmi ces personnes-là, je veux dire, c'est ceux qui viennent aussi à partir de leurs enfants et de ce qui s'est passé pour leurs enfants et de la remise en route que la catéchèse de leur enfant leur a permise. Et du coup, ils font une démarche personnelle. Voilà. Donc, je crois qu'un des enjeux aujourd'hui, si vous voulez, et je vais en rester là, à propos du prochain synode, c'est comment articuler deux choses. À la fois, être témoin d'une bonne nouvelle pour la famille, en disant, je veux dire, il y a un avenir pour la famille, il y a un avenir pour le couple, il y a un avenir pour le mariage. Comment on peut s'entraider, justement, à vivre cet avenir? Et en même temps, comment exprimer la miséricorde de Dieu pour ceux qui vivent les situations d'échec? Voilà. Et comment il y a une espérance pour tous? Voilà. Donc, si vous voulez, c'est... on sent bien que des enjeux du synode qu'on a eu, avec des tensions, avec des... et du prochain synode, tout tourne un peu, je veux dire, autour de ces deux convictions fondamentales.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à tous.
Voilà.
Merci à vous, Père.